passage, par quelques lectures. On peut commencer avec l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 12. Romains 12, et on va lire simplement un verset, le verset 9. Romains 12 et le verset 9, que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Amen. Et c'est surtout sur cette dernière recommandation que j'insisterai ce soir. Attachez-vous fortement au bien. On va lire aussi dans l'évangile de Luc, au chapitre 6 et le verset 45. L'évangile de Luc, le chapitre 6. Et le verset 45, c'est Jésus, bien sûr, qui enseigne ici, « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. » Amen. On va le relire. « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. » Alléluia. Et puis, juste avant de commencer ce message dans les Actes des Apôtres, le chapitre 4 et le verset 36. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils de consolation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa au pied des apôtres. Et concernant ce même Barnabas, on peut lire au chapitre 11 des Actes des Apôtres encore quelques renseignements qui nous sont donnés le concernant, chapitre 11 et le verset 19. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur, car c'était un homme de bien, plein du Saint-Esprit et de foi. Amen. On va donc prendre quelques instants ce soir pour aborder un sujet où il faudrait plusieurs réunions et des études, tellement le sujet est vaste, mais on va cibler le propos. Dans tous les textes qu'on a lus ensemble, il est question du bien. Il est question de bons fruits. Il est question de Barnabas, sur lequel je reviendrai tout à l'heure, et il est qualifié d'homme de bien. L'homme de bien. Jésus va parler de l'homme bon qui tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Donc, il y a un témoignage important qui caractérise particulièrement l'enfant de Dieu. L'enfant de Dieu, c'est la bonté manifestée. Être des hommes et des femmes de bien, de bien. C'est pas Barnabas qui s'est recommandé lui-même en mettant un badge ici. Bonjour, je suis un homme de bien. Non, non, non. ce sont les apôtres qui ont observé ce jeune chrétien, récemment baptisé. Ils ont observé ce qui se dégageait de sa personne, les paroles qu'il distillait, ses comportements, ses attitudes, sa piété, sa ferveur, son implication, son cœur entier. On en reparlera tout à l'heure plus en détail. Et ce sont les apôtres qui l'ont surnommé le fils de la consolation, on pourrait dire aussi le fils de l'encouragement, et tous rendaient ce témoignage, il était un homme de bien. Je crois, frères et sœurs, que nous sommes appelés à être des hommes et des femmes de bien, à manifester le bien. C'est une chose qui est un défi insurmontable et inaccessible à nos propres efforts. L'apôtre Paul va le dire. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. Donc, naturellement, on ne peut pas être des gens de bien. Des gens bons, peut-être, mais des gens de bien, non. Naturellement, c'est inaccessible. L'apôtre dira, j'ai la volonté de faire le bien, mais je n'en ai pas le pouvoir. Car lorsque je veux faire le bien, c'est le mal qui s'attache à moi. Et sa conclusion, vous la connaissez, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? On pourrait paraphraser en disant, mais j'ai besoin que quelqu'un vienne à mon aide. Seul et par mes seuls efforts, je n'y arrive pas. Alors, j'ai besoin d'une tierce personne. Et immédiatement, la réponse lui est donnée. Il y a une tierce personne, une personne merveilleuse, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Et dès l'instant où je donne mon cœur à Jésus, je le reçois dans mon cœur comme mon sauveur, mais aussi comme mon Seigneur, sa présence s'installe en moi, son règne s'instaure dans ma vie, alors ce n'est plus le naturel qui me gouverne, mais c'est le Seigneur lui-même qui me gouverne, qui gère ma vie, alléluia, dans tous les domaines, qui inspire les expressions de ma personne. Et alors là, oui, oui, je suis en disposition pour devenir un homme de bien, une femme de bien. Je prie pour que nous soyons tous des hommes et des femmes de bien. Et que notre entourage, notre famille, nos rencontres au fil de nos occupations puissent converger vers ce témoignage. Ce couple a quelque chose de particulier. Cette mamie, elle porte sur son visage un rayonnement, une lumière, quelque chose d'indéfinissable, mais ça fait du bien. Que Dieu fasse de nous, dans une société où c'est le mal qui triomphe, d'être des hommes de bien et des femmes de bien. Et avec la grâce de Dieu, c'est le bien qui triomphera du mal. Amen. Et si tu es plongé dans un contexte social où tu es peut-être le seul chrétien, ne t'en désole pas. Remercie le Seigneur, réclame-lui toute la puissance du Saint-Esprit, parce qu'à travers ta personne à vue humaine faible et petite, un miracle peut se produire, le bien peut triompher du mal. À cause du péché, nous l'avons compris, le monde entier gît sous la puissance du malin, donc du mal, hein, le malin a comme racine le mot mal, c'est le mal. Et alors les preuves du mal sont devant nos yeux. Hein. Pourquoi y a-t-il des choses, des comportements, même des comportements irrationnels qui portent vers le mal? Qu'est-ce qui pousse d'une manière vraiment rationnelle un adolescent à tuer un copain de classe, je ne sais pas. Qu'est-ce qui inspire ces actes assassins? Mais qu'est-ce qui pousse ces connivences sur les réseaux sociaux pour organiser la brimade infligée à un souffre-douleur? Ça vient d'où, ça? C'est pas rationnel. C'est que le monde entier gît sous la puissance du malin. C'est pas rationnel, c'est spirituel. C'est dans le monde invisible, mais pour être invisible, il n'en est pas moins réel et actif. C'est pourquoi les moments d'intercession tels que ce soir sont des moyens efficaces pour endiguer la progression du mal. Eh bien, dans un monde où le mal règne, il est possible, à travers l'Église de Jésus-Christ, de faire triompher le bien et d'amener dans nos contacts, dans nos connaissances, nos fréquentations. Il y a des occasions qui ne sont pas fortuites, mais providentielles. Dieu peut inspirer une rencontre, il peut téléguider des événements dans le but de t'utiliser, toi, homme de bien, toi, femme de bien, pour faire triompher le bien autour de toi, et en particulier dans ces rencontres providentielles. Le psaume 87 nous dit, en parlant des croyants, de ceux qui s'appuient sur le Seigneur, quand ils traversent la vallée de Baca, vallée des larmes, de la dépression, de la désolation, quand les croyants traversent la vallée de la désolation, on va dire, alors les croyants la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie aussi couvre le pays. Donc, nous sommes dans une société complètement perdue sous le règne despotique du mal. Mais Dieu a placé dans ce monde son Église. Et Jésus a dit, je ne te prie pas de les ôter du monde. Ils sont dans le monde, même s'ils ne sont plus du monde, ils sont dans le monde, garde-les du mal, et que nous soyons par sa grâce des hommes de bien. Est-ce que ce soir, tu ne voudrais pas avec moi prier le Seigneur en disant, Seigneur, fais de moi un homme de bien, une femme de bien, que moi-même je sois rempli du bien qui découle de ta personne et que je sois un canal pour laisser couler le bien autour de moi. Le bien, n'importe comment, il faut le savoir, le bien n'a qu'une seule et unique source, c'est Dieu. Amen. Seul Dieu est bon. Le bien, le véritable bien, le bien inconditionnel, authentique, résistant à toutes les formes d'opposition, le bien parfait trouve sa source dans la personne de Dieu. De notre Dieu, aucun mal ne pourra provenir. Il ne provient que le bien. Amen. Et je dis ceci dans le cas où quelqu'un peut-être serait troublé en traversant certaines circonstances et peut-être il y a des pensées mensongères qui laisseraient croire que ce que tu vis négativement pourrait être provoqué par Dieu. De Dieu, il ne vient que le bon et que le bien. Tout ce que ses mains ont créé, relisons la Genèse en son chapitre 1, tout ce que ses mains ont créé a été ponctué par ce témoignage, Dieu a vu que c'était bon. Et parce que c'était bon, Dieu a béni. D'ailleurs, il y a tout un vocabulaire dans le domaine du bien, Il y a le bien, il y a le bon, il y a la bonté, il y a la bienveillance, il y a le bénéfice, il y a le bien-être, il y a les bienfaits, il y a la bénédiction, il y a bénir. Bénir, c'est dire du bien, c'est faire du bien. Il y a tout un vocabulaire, et la Bible en est remplie, qui nous enseigne sur le bien. Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien. Amen. Jésus fait du bien à la veuve de Naïm lorsqu'il lui rend ressuscité son fils unique décédé prématurément. Il fait du bien. Il fait du bien à Jaïrus dont la petite de 12 ans venait de mourir. Jésus la ressuscite, il la rend vivante à ses parents. Il fait du bien. Il fait du bien à cette pauvre femme qu'une horde de fous furieux fanatisés était prête à lapider, et ils accusaient auprès de Jésus. Eh bien, toi, Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Eh bien, Jésus a fait du bien. Lorsqu'en prononçant ces paroles célèbres, que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette la première pierre, et il continue à écrire sur la terre. Et la Bible nous dit que ces seules paroles ont repris la conscience de chacun si fortement que du plus grand jusqu'au plus petit, ils ont silencieusement posé leur pierre et sont partis sur la pointe des orteils, si bien que Jésus s'est retrouvé avec cette femme tremblante de peur et d'émotion aussi. Et Jésus va dire, mais femme, ouf. Où sont passés ceux qui t'accusaient? Ne s'est-il trouvé personne pour te jeter la pierre? Non, Seigneur. Eh bien, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pèche plus. Et ça, ça a fait du bien. Jésus a procuré un bien incomparable à cette pauvre femme. Le bien d'expérimenter le pardon, la délivrance de sa honte, mais aussi le bien qui consiste à donner à cette femme la capacité d'être libre du péché et de ne plus retomber sous cette servitude. Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien. Et depuis 2000 ans, j'ai envie de dire que partout où son nom est prêché, Jésus fait du bien. Et sa volonté ce soir, c'est de faire du bien. Amen. C'est la source unique du bien véritable. Que le Seigneur te fasse du bien ce soir. Alléluia. Alors, cette source du bien veut établir dans ma vie, dans ta vie, sa richesse et nous transformer nous-mêmes en hommes de bien et en femmes de bien. Gloire à Dieu. Alors, la Bible est remplie d'hommes, de femmes qui, dans telle ou telle circonstance, ont manifesté des qualités divines, des qualités célestes, c'est pas naturel. Et ce sont comme des étoiles que Dieu met dans le ciel biblique, c'est des étoiles, c'est des hommes, des femmes qui nous sont donnés en exemple pour que nous aspirions à les imiter et à être nous aussi, dans notre contexte d'aujourd'hui, des hommes et des femmes de bien. Quand l'apôtre Paul fait la liste, vous savez, de tous ces bien-aimés qui, un jour ou l'autre, ont été pour lui, un moyen de consolation, de relèvement, de provision dans des situations où il était dans la disette. Il s'en souvient avec un flot de louanges à Dieu et de reconnaissance. Ce sont des hommes et des femmes de bien. De bien. Il y en a qui sont mentionnés, je parlerai rapidement, je parlerai par exemple de ce cher chrétien dont l'apôtre Paul parle, que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. Onésiphore était un homme de bien. Alléluia. D'ailleurs, son nom, il portait bien son nom. Son nom signifie celui qui apporte un bénéfice, un profit. Moi, j'aimerais m'appeler Onésiphore, même si ça sonne pas terrible, mais mais dans le message qu'il contient, j'aimerais bien m'approprier ce nom. Celui qui apporte un avantage. Amen. Est-ce que tu ne souhaiterais pas être entre les mains du Seigneur, un homme, une femme, à travers lequel Dieu va apporter un avantage, un profit, un bénéfice, dans l'Église, dans tes contacts avec un frère, une sœur, être un communicateur de bienfaits, de bénédictions. Alléluia. Que Dieu se serve de toi pour apporter, pourquoi pas, un apaisement à un cœur en émoi et en panique. Que Dieu t'utilise pour apporter une parole à laquelle tu n'avais pas pensé, mais que le Saint-Esprit va inspirer à ton cœur et à ta bouche, et tu vas apporter une parole simple, ça peut être une phrase courte, sujet, verbe, complément, trois mots. Mais ça vient de Dieu. Et en entendant ces paroles de ta bouche, la personne qui va les entendre va recevoir le secours de Dieu. Et tu auras procuré un avantage. Gloire à Dieu. Amen. Alors, moi je me réjouis quand je reçois un avantage des autres. Ça fait du bien. Hein? Quand par exemple je suis encouragé, je reçois, ça fait du bien, c'est agréable. Hein? Mais Dieu veut me hisser plus loin, plus haut. Et il veut que je priorise le fait que je puisse, en son nom, procurer aux autres un avantage, une bénédiction. Ça, c'est Onésiphore. Et vous savez, cette qualité, on ne va pas parler trop longtemps de lui, mais cette qualité, il l'a manifestée pour l'apôtre Paul en bien des circonstances, mais là où Paul en parle, c'était une circonstance particulière. Je n'ai pas lu le verset qui précède. Il dit ceci. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, sauf Onésiphore. Donc, ce n'était pas un contexte facile, parce qu'on est tous des gens influençables. Quand on voit 5, 10, 15, 20, tous m'ont abandonné. Alors, il y a un phénomène de groupe. La psychologie naturelle aurait voulu que Onésiphore, comme un mouton de panurge, il suive les autres. Eh bien non, parce que c'était un homme de bien. Il n'a pas suivi le courant négatif quand même, hein, mais il est resté fidèle à son appel, apporter un profit, faire du bien, procurer un avantage. Et l'apôtre Paul s'en souvient définitivement. Que le Seigneur soit béni. Il y a d'autres exemples. Par exemple, Joseph de Nazareth, qui était marié avec Marie. Il apprend que Marie est enceinte. Alors, avant que l'explication ne lui soit donnée, Joseph, bien sûr, il a un raisonnement qu'on peut comprendre. Hein. Mais la Bible nous dit que Joseph était un homme de bien. Et il ne voulait pas susciter un scandale. Alors, très discrètement, il avait envisagé, de régler les choses. Un homme de bien, une femme de bien n'aime pas le scandale. N'aime pas ce qui perturbe. La nature humaine, pécheresse, trouve croustillant de s'entretenir de petites histoires un peu cheloues, quoi. Hein? On aime bien parler de choses Tu sais la dernière? Eh bien, l'homme de bien n'agit pas ainsi. Il a une nature transformée à l'image de Christ. Joseph était un homme de bien, il n'aimait pas ce qui était porteur de troubles, de perturbations. Je dirais qu'un homme de bien, une femme de bien, va chercher ce qui édifie. On est d'accord? Amen. Ce qui édifie. Un jour, il y en a une qui était très très gourmande de ces choses croustillantes là, hein, qui est venue un jour trouver une chrétienne de son église. Ah, ma chère sœur, est-ce que tu connais la dernière? Non, ni l'avant-dernière du reste, mais non. Alors, écoute-moi bien, avant de me dire ce que tu veux me dire, quelques questions. Est-ce que tu es sûr que c'est vrai? Je ne l'ai pas entendu moi-même, mais on me l'a dit. Vous savez, on m'a dit que, hein. Bon, deuxième question. Est-ce que ce que tu penses me dire, ça va me faire du bien? Elle dit, non, pas vraiment, pas vraiment. Alors elle a dit, je ne veux pas l'entendre. Je crois que ce qui doit nous motiver, c'est d'édifier. C'est édifier. Alléluia. Édifier, fortifier, restaurer, relever, consolider, alléluia, conforter la foi, encourager un frère, une sœur qui est en fragilité, en lui disant, mon frère, ma sœur, je prie pour toi, que le Seigneur te fortifie. Et ainsi, viser à édifier, à édifier. Alors, pour terminer, on va quand même parler un petit peu de Barnabas. De Barnabas, c'était vraiment un homme remarquable, fils de la consolation, ou de l'exhortation, ou de l'encouragement. Vous savez, quand on donne un nom, là c'était en fait un surnom, c'est en rapport avec l'identité de la personne. Quand les apôtres ont donné, en plus de Joseph, le surnom de Barnabas, c'est très fort. Les apôtres sont en train de dire, ce jeune homme, il a un ADN, une identité spirituelle magnifique, il procure l'encouragement, alors on va l'appeler le fils de l'encouragement. Alors, on aimerait être des fils et des filles d'encouragement. Amen. Des Barnabas et des Barnabassettes, je ne sais pas comment on dit ça, mais des fils, des filles d'encouragement, alléluia, de consolation, de réconfort. Il y a des circonstances tellement complexes, accablantes, tellement difficiles, lourdes, pesantes, qu'elles vont nécessiter, pour relever un frère, pour relever une sœur, que des Barnabas viennent à leur secours. Amen. Et leur apporte de la part du Seigneur un soutien, alléluia, pour leur rappeler qu'ils sont dans nos cœurs, ils sont dans nos prières. Notre désir sincère, c'est de les voir relever la tête et reprendre avec joie la persévérance de la foi. Que Dieu soit béni. Sa nouvelle identité, c'est être fils de la consolation. Ce Barnabas, homme de bien, il est aussi fait mention de sa générosité, je dirais, matérielle. C'est écrit. Alors lui, tellement il était enflammé pour Jésus, il était porté, quoi, ça bouillonnait dans son cœur, et il a vu qu'il y avait des besoins dans l'œuvre de Dieu, il avait un terrain, il a été le vendre, il a mis tout ça au pied des apôtres. Vous voyez, il y a des élans comme cela, qui ne sont pas des calculs, ce n'est pas le résultat d'une logique pesée et sous-pesée, mais c'est une expression de consécration et d'adoration. Alors, je crois, frères et sœurs, je crois, peut-être en dirais-je un mot à l'Assemblée Générale dimanche, je crois que notre consécration pécuniaire Dieu n'en a pas besoin, puisque l'or et l'argent lui appartiennent. Je ne vais pas enrichir Dieu avec mon offrande. Cette petite femme qui a mis un quart de sou, rappelez-vous, dans la synagogue, est-ce qu'elle a enrichi Dieu avec son quart de sou? Et cependant, Jésus a remarqué la beauté, la dimension merveilleuse et exemplaire de ce geste. Ce n'est pas le quart de sou qui compte, mais c'est l'intensité de sa consécration. Elle l'a prise en modèle, publiquement. Et elle a dit, écoutez bien, et regardez cette femme. Son amour pour l'Éternel est tellement absolu qu'elle a donné de son nécessaire. Son nécessaire. C'est-à-dire qu'en donnant ce quart de sou, elle était en train de donner sa vie. Elle offrait sa sécurité, sa provision. Elle a tout donné. Donc ce n'est pas une question de zéro avant la virgule, hein. De nombre de zéros avant la virgule, non, c'est pas une question de chiffres, c'est pas une question de somme, de montant, c'est une question de dimension spirituelle. Et notre consécration, aussi bien dans le domaine spirituel que dans l'implication dans un service ou dans l'offrande, traduira la qualité de l'amour dont je vais aimer le Seigneur. Et cet homme de bien, il a manifesté ce geste magnifique en soi. C'est pas tellement le terrain qui était important, c'était la consécration d'un jeune homme qui s'offre à son Dieu de tout son cœur. Et puis, on s'aperçoit que ce Barnabas, eh bien, parce qu'il a été comme cela, fidèle, constant, exprimant des choses qui ont témoigné en sa faveur, eh bien, à un moment donné, quand les apôtres ont eu besoin de trouver un homme de confiance, c'est Barnabas qu'ils ont choisi. On lui a confié une mission. Il n'était pas un personnage très réputé, hein. Il n'a pas un CV chargé, non, mais ce que les apôtres ont remarqué chez cet homme de bien, suffisait pour dire, on va lui confier d'aller de visu constater ce que Dieu est en train de faire là-bas en Antioche et dans toute cette région, parmi même les incirconcis. Et quand Barnabas est arrivé, cet homme de bien, et ça aussi c'est une qualité importante, un homme de bien, une femme de bien, la Bible nous dit, il s'est réjoui de l'œuvre de Dieu. Amen. Il s'est réjoui de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Il y a eu quelque chose, un tressaillement dans son cœur. Alléluia. C'est-à-dire que pour lui, la santé et la prospérité de l'œuvre de Dieu était la raison principale de sa réjouissance. Gloire à Dieu, hein. Quand on apprend, voilà, l'Église ici ou là va bien, il y a l'essor de l'Évangile, il y a vraiment des encouragements, il y a des conversions, des guérisons, alléluia, et l'Église mère a ouvert 2, 3, 4 lieux annexes. On a ouvert des huttes, des quartiers, des clubs d'enfants de la rue. On se réjouit. Parce que, voyez-vous, il y a de multiples raisons de se réjouir, et il y a des raisons qui nous touchent personnellement, et c'est légitime, mais il en est une qui doit transcender toutes les autres, quand on est un homme de bien aux yeux de Dieu, c'est le développement de l'œuvre de Dieu. Parce que quand l'œuvre de Dieu se développe, c'est Christ qui est glorifié. Amen. D'apprendre des nouvelles réjouissantes, des progrès de l'œuvre de Dieu. Il se réjouissait de voir toutes ces choses, et puis il est dit dans le texte que nous avons lu, il était plein du Saint-Esprit et de foi. D'ailleurs, je pense qu'il y a un lien de cause à effet. Parce qu'il était plein du Saint-Esprit et de foi, il était un homme de bien. Amen. C'est sa foi vivante et la plénitude du Saint-Esprit en lui qui a fait que Barnabas était un homme de bien, que le Seigneur le fasse aussi pour nous et que nous soyons ces bons arbres qui portent de bons fruits. Amen. La sagesse d'en haut, nous dit l'apôtre Jacques, elle est pleine de bons fruits. Amen. Pleine de bons fruits. Ah, moi, j'aimerais être plein de bons fruits. Amen. Moi, j'ai un petit terrain à Marguerite. Il est petit, hein. Mais j'ai profité au maximum du petit espace. J'ai mis des arbres fruitiers partout. Alors, quand ils étaient jeunes, ça va. Maintenant qu'ils grandissent, ma femme me dit, tu vois, je t'avais dit, n'en plante pas trop, hein. Eh bien, il y a une saison que j'aime bien. Moi, c'est le printemps parce que, après les fleurs, là, je vois les fruits, ils sont là. Et je prépare déjà mes pots de confiture. Je suis en avance de 3 mois, mais ça fait rien. Un arbre fruitier. Je sais pas vous, mais moi, ça m'attire. Ça attire. Et si nous étions des arbres fruitiers, chacun pour sa part, dans cette société affamée, si nos branches étaient remplies de bons fruits, d'amour, de joie, d'espérance, de bonté, d'ouverture aux autres, des bons fruits, eh bien, je suis persuadé que ça susciterait une attraction, une attirance. Hommes et femmes constateraient qu'il y a quelque chose de particulier sur nos vies. Eh bien, ce quelque chose, c'est que nous sommes des hommes de bien et des femmes de bien, parce que la seule source du bien vit en nous. C'est le Seigneur lui-même. Que Dieu soit béni.